Je suis entrée à l'université en tant que membre de la classe de 1984. À ce moment-là, il y a plusieurs personnes qui réfléchissaient au livre qui avait été écrit par George Orwell en 1948. Et je me demandais si sa vision du futur dystopique allait se réaliser. 1984 a été écrit par George Orwell en 1948. Il parle d'un avenir contrôlé par un État autoritaire où les citoyens sont constamment sous la surveillance de Big Brother. Les livres sont interdits. Il est interdit de lire la plupart des choses. Toute dissidence est interdite. Ceux qui résistent sont torturés ou tués. Certains Américains guettaient cette année-là, en 1984, et se sentaient soulagés que les prophéties du roman ne se soient pas réalisées. Je me souviens avoir pensé à certaines de ces choses moi-même. Mais il y avait aussi une autre vision de l'avenir proposée par un autre auteur, Aldous Huxley, dans son livre « Le meilleur des mondes », écrit au début des années 1930. C'est un monde où les gens ne lisent pas non plus, mais non parce qu'on les empêche de le faire, mais parce que la société est organisée de telle manière que personne ne veut plus lire. La persuasion inconsciente et les drogues psychotropes sont plus efficaces que la coercition. Son monde est un monde de plaisir artificiel induit par les drogues, pas de contraintes sexuelles, mais un monde sans mariage, juste des aventures de nuit, aucune douleur, aucune valeur, juste un divertissement irréfléchi et du spectacle. Le titre en anglais, The Brave New World, est une citation de la pièce de Shakespeare, La Tempête, où une jeune femme noble fait naufrage et découvre des choses nouvelles et exotiques sur l'île où elle atterrit. Miranda dit, « Oh merveille, combien de bonnes créatures y a-t-il ici, que l'humanité est belle. Oh brave nouveau monde, qui a de telles personnes. » À l'époque de Shakespeare, brave, signifiait non seulement audacieux, mais aussi tape à l'œil ou élégant, quelque chose qui éblouissait les gens. Donc, brave dans le titre, implique un enthousiasme naïf que les gens peuvent avoir pour les paillettes technologiques, et le contrôle perçu qu'il apporte. Le brave nouveau monde de Huxley était donc attrayant pour les gens, mais superficiel et sans signification profonde et substantielle. L'analyste social Neil Postman, dans son livre « Se distraire à en mourir », a postulé que si les gens gardaient un œil inquiet sur 1984, c'est le brave nouveau monde qui s'est faufilé dans notre société. Il a exploré comment nous sommes passés d'une société orientée vers le texte à une société orientée vers l'image, et que cela n'a pas amélioré notre façon de penser. En fait, et cela nous est encore plus clair aujourd'hui, cela a réduit une grande partie de notre discours public à la cochonnerie, des clips sonores, des tweets à de courtes périodes d'attention, une compréhension seulement superficielle des problèmes, élevant l'émotion au-dessus d'un raisonnement réfléchi. Il est vrai qu'aujourd'hui, les gens lisent moins que par le passé, et ce qu'ils lisent a tendance à être écrit à un niveau beaucoup plus simple. Vous pouvez comparer ce qui était enseigné au niveau du lycée à l'époque à ce qui est enseigné aujourd'hui, vous verrez la différence. Le livre de Nicolas Carr, Internet rend-il bête, analyse le phénomène et son sous-titre dit tout, ce que l'interdit fait à notre cerveau. Ce n'est pas bien. Carr précise que la plupart des Américains et des jeunes en particulier affichent une baisse abrupte du temps passé à lire. Il raconte lui-même qu'il s'en rend compte qu'il est affecté. Il l'a dit, « Une fois, j'étais plongeur dans la mer des mots. Maintenant, je glisse le long de la surface comme un gars sur un jet ski. » Je pense que nous aussi, nous pourrions dire quelque chose de semblable. Un rapport Nielsen de 2016 calcule que l'Américain moyen consacre plus de 10 heures par jour à consommer des médias, notamment la radio, la télévision et tous les appareils électroniques. Cela représente 65% des heures d'éveil. Évidemment, nous travaillons et nous sommes occupés autrement, mais cela laisse peu de temps pour le travail, beaucoup plus difficile de concentration sur la lecture. Je m'appuierai sur plusieurs livres aujourd'hui, tout en soulignant ce que la Bible nous enseigne à ce sujet. Je vais utiliser des livres tels que Internet rend-il bête, La parole qui disparaît d'Arthur Thur et d'autres livres. Ces livres soulignent le fait inquiétant que notre société abandonne la parole écrite pour s'attacher à des images, en particulier des images électroniques. Et nous devons comprendre qu'au point de vue biblique, il y a une tension, un conflit entre la parole et l'image. Et nous devons en être avertis. Hunt explique que le paganisme est associé à l'image, alors que la Bible, comme nous le verrons, se concentre sur l'écriture. Veuillez vous référer à Genèse chapitre 11, verset 1. Genèse 11, verset 1. Peu de temps après le déluge, l'humanité s'est de nouveau rebellée. Et nous arrivons aussi à la tour de Babel. C'était une attente à se rebeller contre Dieu qui avait dit « Dispersez-vous sur la terre et reproduisez-vous ». Mais la tour de Babel, les gens se sont dit « Non, restons ensemble et faisons ce que nous voulons ». L'écrivain historien Josephus a dit que les gens voulaient construire une tour si haute que jamais Dieu ne pourrait les faire mourir avec un autre déluge. Verset 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage. Ainsi, ils n'entendent plus, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de la terre, sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. » C'est probablement là, à ce moment-là, que le polythéisme a commencé. Nimrod était probablement le premier avec une culte de la personnalité. Dans le dictionnaire de théologie prémillénaire sur Babylone, nous voyons qu'il y avait des normes pour les cultures païennes que nous retrouvons même de nos jours. Je vais vous lire un des extraits du dictionnaire de théologie sur Babylone. Les Babyloniens ont rendu les religions païennes à la mode. Ils ont pris l'idée du panthéisme, c'est-à-dire que les dieux étaient présents dans chaque acte ou expression de la nature et de la matière physique, et l'ont élevé à une forme d'art. Ils ont incorporé l'art, le théâtre et la musique dans la religion, jusqu'à ce que les idées païennes soient joliment représentées comme les plus hautes expressions de leur culture. Babylone a également repris l'idée ancienne de la cité-État et l'a développée en un système de bureaucratie qui a établi un contrôle sur la population. Nous savons que dans l'Apocalypse, Mystère Babylone est utilisé pour représenter une fausse religion tentant de rivaliser avec Dieu et de s'opposer au vrai christianisme. Maltraiter les chrétiens. Cela commence dans Romains 1, dans Genèse 11. a commencé avec Nimrod. Maintenant, vous référez à Romains chapitre 1. On va commencer à lire au verset 20. Romains 1, verset 20. En effet, les perfections visibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ils voulaient remplacer Dieu par quelque chose qu'ils pouvaient voir, toucher. C'est au cœur du paganisme. Changer la gloire de Dieu en des images représentant des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et le résultat se trouve au verset 29, « Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, rebelles à leurs parents, et ainsi de suite. » Ils ont échangé la gloire de Dieu pour une image. Et le résultat est la sensualité et la violence. Je vais vous lire maintenant ce qu'on lit dans 1 Corinthiens 17. Il est écrit, « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. » Alors, il y avait une rébellion contre Dieu. La religion païenne repose sur l'image, le concret, l'immédiat, les sens. La vérité de Dieu se révèle à travers des mots, spécifiquement des mots écrits, abstraits et transcendants. Ils vont loin de ce qui peut être exprimé par une image, un statut. Peu de temps après la culture babylonienne, la culture égyptienne a pris de l'importance. C'était une société très orientée vers l'image, conforme au modèle païen qui avait déjà été mis en place. Lorsque nous lisons l'histoire de l'Exode et des errances dans le désert de Sinaï, nous sommes parfois surpris de la façon ou de la facilité avec laquelle les anciens Israélites sont retombés dans l'idolâtrie. Après les miracles que Dieu a fait pour les faire sortir d'Égypte, après le tonnerre sur le mont Sinaï, quand Moïse est monté pour recevoir les 10 commandements, quand cela a pris plus de temps qu'il ne le prévoyait, il voulait une solution rapide. Nous voulons quelque chose que nous pouvons regarder, quelque chose que nous pouvons voir. Fais-nous une statue. Et Aaron a dit, d'accord, voici ce que nous allons faire. Donnez-moi vos bijoux. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Mais les Israélites étaient en Égypte depuis des centaines d'années, et en Égypte, les images étaient tout. Des pyramides, des peintures, des statues d'animaux et de personnes. Même le langage était basé sur l'image. Les hiéroglyphes. Tout cela faisait partie de leur système religieux. Toutes sortes de choses étaient associées aux dieux. Des animaux comme les chats, les babouins, les crocodiles, les chacals, les faucons, les grenouilles, les taureaux, tous étaient considérés comme sacrés. J'ai eu la chance de visiter Israël et l'Égypte à plusieurs reprises. Et visuellement, l'Égypte est beaucoup plus intéressante. Quand vous allez en Égypte, il y a d'immenses monuments, statues, temples, pyramides, obélisques. Vous allez en Israël et vous voyez des pierres, quelques fouilles de sites antiques, parfois partiellement reconstruites par des archéologues pour intéresser les touristes. Mais visuellement, viscéralement, aucune comparaison avec l'Égypte. Ce sont l'histoire de la Bible qui donne le sens à ce qui peut être vu en Israël. Si vous ne connaissez pas la Bible, ce n'est pas aussi intéressant. de visiter Israël. Et c'est une des raisons pour lesquelles les Israélites avaient tendance à retourner à leurs mauvaises anciennes habitudes et les faux païens, et le faux paganisme. L'historienne Camille Paglia a écrit, lorsque je vais lire cette citation, pensez à Hollywood, MTV et Instagram. L'Égypte a inventé le glamour, la beauté comme pouvoir et le pouvoir comme beauté. Les aristocrates égyptiens ont été les premiers beaux peuples. La hiérarchie et l'érotisme ont fusionné en Égypte, faisant une unité païenne que l'Occident n'a jamais rejetée. L'Égypte était très influencée par l'érotisme. La Grèce et Rome ont suivi de cette manière, descendant vers des fonds dégoûtants de perversité. Notre société suit cette voie maintenant. Les Israélites ont eu le problème, tout au long de leur histoire, à retomber dans l'idolâtrie. Ils avaient été imprégnés de la société égyptienne axée sur l'image et ils restaient toujours à proximité. Quelqu'un a dit, le problème n'était pas de faire sortir les Israélites d'Égypte, c'était de faire sortir l'Égypte des Israélites. Et ce fut le cas pendant des centaines d'années. Mais quand Dieu fait sortir les Israélites d'Égypte, il leur a donné un nouveau modèle d'adoration. Et de ce qu'ils souhaitaient de leur part. Nous pouvons lire à ce sujet dans Exode 20, Exode chapitre 20. Nous verrons certaines des premières instructions que Dieu a données aux Israélites. Exode 20, nous allons commencer au verset 1. Abraham a parti de là pour la contrée du Midi, s'établit. Je n'ai pas le bon chapitre, excusez-moi. 20, chapitre 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui m'haïssent, qui fait miséricorde jusqu'en mes générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impunir celui qui prendra son nom en vain. » Dieu a dit, « Ne me représentez pas ou ne me signifiez avec aucune sorte d'image, et soyez très prudents lorsque vous me signifiez, même avec des mots. » Comment Dieu a-t-il transmis la vérité? Il l'a écrit avec son propre doigt. Pas de tradition orale, pas d'image, pas de danse interprétative, l'écriture. C'est comme ça que Dieu a communiqué sa volonté. Postman a écrit dans un de ses livres que le langage écrit est vraiment la seule façon pour décrire un Dieu transcendant. Une image, une statue ne peut pas représenter l'éternité ni la puissance divine de Dieu. Lorsque nous utilisons de tels moyens, nous réduisons Dieu. Et c'est ce que Dieu a dit. Vous allez perdre de la compréhension si vous faites cela. Alors, lire, et l'importance de lire était très importante au sein du peuple de Dieu. Dieu voulait qu'ils lisent régulièrement sa parole. Dieu a instruit les Israélites sur l'importance de la lecture. Dieu leur a dit de prêter attention à ses paroles, de penser à elles, et de les transmettre à la génération suivante. Deutéronome 6 est un exemple où nous voyons cela mis en pratique. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Enseigne ces mots diligemment à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Parle de mes paroles quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Pense aux mots que j'ai écrits. Ils sont là. Souviens-toi de ce qu'il veut dire. Enseigne-les à tes enfants. Médite sur mes paroles afin de ne pas les oublier. Deutéronome 4, verset 2, je vais le lire pour vous. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les prescris. Gardez ce qui est écrit, n'y ajoutez rien, n'y retranchez rien. Alors, nous ne voyons nous pouvons comprendre que l'importance d'écrire et de lire était très importante pour le peuple de Dieu. Vous pouvez maintenant, veuillez maintenant vous référer à Juges chapitre 8, qui est un exemple du fait que la parole était importante pour eux, ce qui était écrit. Juges 8, verset 13. Juges 8, verset 13. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Sukkot un jeune homme qui l'interrogea. Il lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Sukkot, 77 hommes. Alors, il a attiré l'attention de ce jeune homme, il lui a posé des questions, il lui a demandé d'écrire le nom de 77 hommes, et ce jeune homme l'a fait. Un jeune homme qui avait été saisi par hasard. Mais cela indique que c'était commun pour les Israélites de lire et d'écrire. Les anthropologistes ont dit souvent, comme le langage distingue l'homme de l'animal, l'écriture distingue l'homme civilisé du barbare. Et l'anthropologiste Jekyll a écrit à ce sujet où il est important d'avoir l'écriture. Postman, dans son chapitre intitulé « Un esprit typographique », a écrit l'accent le plus fort possible vers l'exposition, une capacité sophistiquée à penser de manière conceptuelle, déductive et séquentielle, une évaluation élevée de la raison et de l'ordre, une horreur de la contradiction, une grande capacité de détachement et d'objectivité, et une tolérance pour la réponse retardée. Tout cela est un esprit qui est capable de penser comme il faut. Cela est le résultat de la réflexion. Un autre auteur, Jane Haley, a écrit dans son livre In Nature Minds que lorsque nous comparons le cerveau d'une personne qui lit et de celle qui ne lit pas, le cerveau se développe de manière différente. Certaines parties du cerveau se développent davantage lorsque la personne réfléchit beaucoup. Et la coopération entre les parties gauche et droite du cerveau est améliorée. lorsqu'une personne réfléchit à ce qu'elle lit. Aujourd'hui, malheureusement, si vous y réfléchissez, la pensée est minimisée. L'émotion est accentuée. Pas de vérité, juste comme une question que les journalistes posent sans cesse. Comment vous vous sentez? L'émotion, cela me frustre beaucoup personnellement parce que qu'est-ce que ça a à faire avec ce qui se passe vraiment? L'émotion est présentée comme une preuve de vérité. Aujourd'hui, parfois, les gens ne vont pas peut-être le dire dans ces mots-là, mais ils pensent « je suis tellement fâché, je suis tellement en colère que je dois avoir raison ». Et malheureusement, aujourd'hui, les émotions sont la colère, la frustration, la condamnation, qui ne sont pas de Dieu. Les émotions mettent de côté la raison. Les gens ne veulent pas entendre les faits. Les médias ont tendance à jouer sur cela. Dans 2 Timothée 1, verset 7, 2 Timothée 1, 7, nous lisons que nous devrions être guidés par une autre sorte d'esprit. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ou je ajouterai de colère. Ou de conflit. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quelqu'un qui arrive à réfléchir tranquillement, inspiré par la parole de Dieu. C'est important de comprendre que Dieu insiste pour que nous lisions sa parole. Si nous sommes capables de lire, il nous faut lire sa parole. Et nous devrions vraiment lire plus que cela, nous tous. Mais au moins, nous devrions lire sa parole. Et aujourd'hui, plusieurs personnes, lorsqu'il y a un sondage, disent qu'ils n'ont pas le temps de lire la Bible. Maintenant, référez-vous à Jean, chapitre 12. Verset 48, Jean 12, 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est intéressant de voir que Jésus a dit. Il dit que celui qui le rejette ne reçoit pas ses paroles. Donc, Dieu insiste que nous devons lire ses paroles. Les paroles qu'il a préservées pour nous, comme les Béréens, dont il est question dans Actes 17, verset 11. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Tous les jours. Ils étudiaient les Écritures et ils vérifiaient ce que Paul leur disait pour savoir si c'était vrai ou non. Dans un sondage Gallup d'il y a quelques années, 64% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles étaient trop occupées pour lire la Bible. Même ceux qui se disent chrétiens ont du mal à reconnaître les faits bibliques. Dans une enquête qui est un peu drôle mais triste en même temps, 12% des chrétiens interrogés ont identifié la femme de Noé comme Jeanne d'Arc. Nous pouvons peut-être en rire un peu, mais c'est triste. Il s'agit de chrétiens qui ne connaissent pas vraiment ce que la Bible dit. 2 Corinthiens, chapitre 5, s'il vous plaît, référez-vous à 2 Corinthiens 5, verset 7. Cela nous indique comment nous devrions vivre nos vies. 5, verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. La plupart des gens marchent par la vue et non par la foi. C'est le païen, la vue païenne. Le païen marche à vue. Le chrétien ne marche pas par ce qu'il voit. Le païen veut limiter l'univers à ce qu'il peut toucher, voir, expliquer. Il refuse de croire ce qu'il ne voit pas. Mais pour nous, pour mettre en application la Bible, nous devons croire en plus que, plus loin que ce que nous pouvons voir. Proverbe 17, verset 16, concernant la parole de Dieu. Proverbe 17, verset 16. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse? Mais il n'a point de sens. Et même s'il a ce qu'il faut, il n'a pas de sens. Il se distrait avec toutes sortes d'autres activités. Pour nous, afin de vraiment apprendre ce que Dieu souhaite que nous apprenions, nous devons avoir le cœur de vouloir apprendre ce que Dieu veut que nous apprenions. Si vous référez maintenant au chapitre 12, verset 1, celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande, la Bible dit les choses telles qu'elles sont, il est stupide. C'est assez direct. Si nous y réfléchissons, il existe différentes façons d'haïr la correction. La refuser purement et simplement, par exemple. Quelqu'un qui veut nous donner des conseils et on le refuse tout de suite. Ou ne pas chercher à apprendre. J'ai d'autres choses à faire. Ne me dérange pas avec cela. Je joue à mon jeu Nintendo. Mais la plupart des gens aujourd'hui ne s'intéressent pas à apprendre, juste à se divertir. On a toutes sortes de moyens de perdre notre temps. Des moyens qui peuvent être très divertissants, mais à la fin, ils nous sont inutiles. Aujourd'hui même, on apprend souvent aux élèves à l'école que leur opinion est tout aussi précieuse que celle des personnes qui ont étudié en profondeur un sujet pendant des années. Il peut y avoir beaucoup de vérité. On leur dit, alors ne vous hâtez pas à en trouver une seule. Chacun a droit à sa vérité. Alors, posons-nous des questions maintenant par rapport à cela. Que devons-nous faire pour échapper à la superficialité et aux influences païennes du nouveau monde courageux d'aujourd'hui? Premièrement, soyez conscient du processus d'idolâtrie dans notre société. N'y cédez pas. Soyez conscient du processus d'idolâtrie où on rejette Dieu. Nous vivons dans une société dominée par l'image et la plupart de ces images véhiculent des valeurs erronées. Cela est assez évident pour nous tous. Il y a quelques années, l'Américain moyen voyait 500 publicités chaque jour. Aujourd'hui, avec l'Internet, je suis certain que nous en voyons encore plus. Au moment où une personne atteint 21 ans, elle sera exposée à entre 1 et 2 millions de messages publicitaires. 1 et 2 millions de messages à l'âge de 21 ans. Nous sommes submergés dans un tourbillon d'images. Et les images sont souvent associées aux idées païennes. Dans 1 Jean 2, verset 16, Nous lisons ce qui résume ce qui se passe dans le monde. 1 Jean 2, verset 16. Jean 2, verset 16. Non, commençons au verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, soit nous aimons les choses du monde, ou nous aimons Dieu. Nous ne pouvons pas aimer les deux. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, ce que nous voyons, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et cela décrit les systèmes du monde depuis qu'Adam et Ève ont quitté le jardin d'Adam, d'Éden. Les idées du paganisme étaient et sont encore toujours, trois choses essentiellement, le sexe, la violence et la célébrité. Ce sont les idéaux principaux du paganisme. Le culte de la personnalité, devenir une star, est la chose la plus élevée que l'on puisse espérer aujourd'hui. On dit même, on nomme même certains programmes, comme par exemple American Idol, une violation du commandement de Dieu. C'est ce qui est fourni dans les images de notre monde moderne, dans la publicité, les films, les émissions de télévision et sur Internet. Par rapport à la violence, sexualité, la célébrité. Aimeriez-vous être un influenceur Instagram? Les gens se mettent en faillite pour devenir des idoles pour les autres. Ils aiment qu'on les voit dans des endroits exotiques, dans des hauts de main, ou dans des vêtements qui attirent attention d'une mauvaise façon. Nous devons faire très attention à ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Et les tentations sont toujours là. Dans la mythologie grecque, les sirènes étaient des créatures dangereuses qui attiraient les marins. Avec leur musique enchanteresse et leur belle voix chantante, et les attirait en naufrage sur la côte rocheuse de leur île. Aujourd'hui, nous entendons souvent un chant de sirène, essayant de nous attirer vers le naufrage spirituel, d'une façon ou d'une autre. Il y a de nombreuses voix chantante des sirènes aujourd'hui. Le chant des sirènes sera toujours là et ce sera tentant. Nous devons être alertes et ne pas tomber dans le piège. Consciemment ou inconsciemment, nous devons être avertis et faire attention afin de ne pas nous laisser emporter dans les pièges. Donc, la première chose que nous devons faire, c'est d'être conscient du processus d'idolâtrie dans notre société et ne pas y céder. La deuxième chose, c'est de maîtriser notre environnement domestique. Lorsque nous sommes dans le monde, nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous. Mais à la maison, nous le pouvons. Je ne pense pas qu'Internet devrait être au centre de notre vie. Je suis certain que nous ne pensons pas dans ces termes-là, mais nous finissons par être entraînés parfois, sans s'en rendre compte, à mettre Internet au centre de nos vies. Internet ou d'autres moyens électroniques qui sont de plus en plus présents dans nos vies. Facebook, comme vous le savez, est plein d'attraits pour vous perdre votre temps. Vous y allez pour une minute et vous finissez par y passer une demi-heure ou plus. Je ne vais pas vous demander de lever la main si cela vous est arrivé, mais nous devons être alertes et être en charge. L'écrivain Philippe Yancey l'a décrit ainsi. Internet et les médias sociaux ont entraîné mon cerveau à lire un ou deux paragraphes, puis à regarder autour de moi. Lorsque je lis un article en ligne d'une revue de qualité, après quelques paragraphes, je jette un coup d'œil à la barre coulissante pour juger de la longueur de l'article. Combien de temps ça va me prendre? Est-ce que je veux vraiment y passer ce temps? Mon esprit s'égare et je me retrouve à cliquer sur les barres latérales et les liens soulignés. Bientôt, je suis sur CNN.com pour lire les derniers tweets de Donald Trump et les détails de la dernière attaque terroriste, ou peut-être vérifier la météo de demain. Pire encore, je suis la proie des petites cases qui me disent « Si vous aimez cet article ou ce livre, vous aimerez aussi faire amish qui vous feront frémir. Top 10 des défaillances vestimentaires de célébrités. Les caméras à grande surface ont capturé ces photos hilarantes. Une douzaine de clics plus tard, j'ai perdu tout intérêt pour l'article d'origine. C'est sûrement une expérience avec laquelle nous pouvons nous identifier. À l'heure actuelle, peut-être parce que nous avons un peu plus de temps à cause du confinement, avec l'incertitude entourant la pandémie, nous assistons à une énorme augmentation des théories du complot. Peut-être que vous avez remarqué certaines de ces théories sur différents médias. Ce n'est pas difficile à comprendre. Nous pouvons lire ce qui est écrit dans Proverbe 26, verset 22. Proverbe 26, verset 22. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Les gens ont écouté et ils aiment écouter les potins. Et cela peut arriver aux chrétiens aussi. C'est tentant pour la nature humaine. On dit parfois que les chrétiens ne répètent pas des histoires, ils demandent des prières. Mais cela peut être fait d'une mauvaise façon. Nous devrions faire attention de comment et si nous devrions partager nos opinions. Nous devrions être prudents afin de ne pas partager nos opinions comme si c'était des faits. Daniel Patrick Moynihan a dit « Vous avez droit à votre propre opinion, mais vous n'avez pas droit à vos propres faits. » Si nous republions des choses que nous ne savons pas être vraies, n'acceptons-nous pas la possibilité de communiquer de fausses informations? Accepter la possibilité que nous transmettons un mensonge. Nous pouvons avoir nos opinions, mais nous devons faire attention à partager des choses dont nous ne sommes pas sûrs. Jésus republierait-il quelque chose comme ça? Je me demande d'abord si Jésus serait même sur Facebook, car il a dit dans Luc 9, verset 60, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Ne te laisse pas distraire par toutes sortes de futilités, par des choses qui n'ont pas de valeur vraiment. Utilise ton temps et ta vie d'une façon sage. Parce que nous vivons dans un âge de colère. La colère est l'attitude dominante de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux. Ça vous est peut-être arrivé que vous avez donné votre opinion et que quelqu'un vous ait attaqué pour votre opinion. L'indignation, l'agressivité, la polarisation sont si répandues aujourd'hui, mais ils ne sont pas dans l'esprit de Philippiens 4:8. Reportons-nous-y. Philippiens 4:8. Philippiens 4:8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos louanges. C'est ce que nous devrions avoir dans nos esprits. Ce devrait être l'objet de nos méditations et non pas ce que nous entendons par les médias dans ce monde. Les médias sociaux peuvent voler notre paix ainsi que notre temps si nous ne faisons pas attention. La façon dont nous nous traitons est beaucoup plus importante que le coronavirus, que le fait que le coronavirus provienne d'un laboratoire ou d'un marché humide ou de plusieurs dizaines d'autres sujets de débat houleux. Certaines théories dénigrent des personnes spécifiques comme coupables d'un plan néfaste, alors que nous ne pouvons pas vraiment savoir que c'est vrai. Un grand nombre d'entre nous au sein du ministère des Dents, peut-être nous tous, avons été la cible de théories du complot dans les années qui ont précédé la formation de cette association. Nous avons été accusés de toutes sortes de choses, et c'était des mensonges. Mais même une explication patiente des faits ne pouvait pas convaincre les gens de notre innocence. C'était impossible. Ils insistaient pour croire à ce qu'ils voulaient croire. Il n'y avait rien que nous puissions faire. C'était terrible. J'ai lu un article hier au sujet d'un docteur qui était très découragé parce qu'il y avait des gens qui voulaient qu'il dise certaines choses auxquelles il n'était pas du tout d'accord. Et c'était des gens qui n'étaient pas informés, qui n'étaient pas dans le domaine médical, mais ils insistaient sur leur propre opinion. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec un ancien camarade de classe qui m'a dit qu'il savait exactement ce que je pensais. Quand je lui dis que ce n'était pas du tout ce que je pensais, il a répondu « Si, c'est ce que tu penses ». En quoi est-ce différent du commérage? Proverbe 11, retournons dans le livre des Proverbes. Proverbe 11, verset 12. Retournons au Proverbe 11, verset 12. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Nous pouvons avoir des opinions, nous avons droit d'avoir nos opinions, mais il est bon de demander s'il est sage ou nécessaire de les partager. Nous devons nous souvenir également de ce que nous lisons dans Romains 11, verset 14. Romains 14, 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. C'est un principe biblique. Recherchez la paix et recherchons l'édification mutuelle. Soyons encourageants les uns envers les autres. Nous chantons souvent un cantique, ô combien j'aime ta loi, elle est tout près de moi. Je pourrais passer plus de temps à réfléchir sur la loi de Dieu. Nous pouvons toujours tous passer plus de temps à réfléchir à la loi de Dieu. C'est encourageant. Alors, je vous suggère, comme je vous l'ai dit auparavant, que nous passions une partie de notre temps à lire. Je vous encourage à lire évidemment la Bible à chaque jour, mais aussi d'autres sujets. Les livres ne sont pas chers. Je voyage dans plusieurs parties du monde où les livres sont chers et les gens ne peuvent pas se les payer. Mais ici, nous avons des centaines de livres extrêmement intéressant, où les gens ont fait des recherches de longue date et elles ont été bien faites. Alors, je vous encourage à lire une biographie ou un livre sur l'histoire. Soyez motivés. Étudiez, lisez des livres sur des études de tendance sociale, comme celles qui sous-tendent ce sermon. Il y a des livres fascinants qui nous aident à mieux comprendre ce qui se passe dans le monde. Nous devrions vouloir apprendre, comprendre, penser et ne pas seulement ressentir et être diverti. Un article dans Business Insider a étudié des pionniers tels qu'Elon Musk, Oprah Winfrey, Bill Gates, Warren Buffett et Mark Zuckerberg. La plupart d'entre eux ont en commun une pratique que l'auteur appelle la règle de 5 heures. Ils réservent au moins une heure par jour, ou 5 jours par semaine, à un apprentissage délibéré. Par exemple, Bill Gates lit 50 livres par an. Elon Musk a grandi en lisant 2 livres par jour. Mark Cuban, milliardaire, lit plus de 3 heures par jour. Arthur Blank, cofondeur de Home Depot, Blank, lit 2 heures par jour. Mark Zuckerberg lit au moins un livre toutes les 2 semaines. Mais lui, il lit pour vous empêcher de le faire. Interrogé sur son succès, son secret du succès, Warren Buffett a pointé du doigt un livre de livres et a déclaré « Lisez 500 pages comme celle-ci chaque jour. C'est ainsi que fonctionne la connaissance. Elle s'accumule comme l'intérêt composé. Vous pouvez tous le faire, mais je vous garantis que peu d'entre vous le feront. » Charles Chu, qui a cité Buffett sur le site Internet Quartz, reconnaît que 500 pages par jour sont hors de portée, sauf pour quelques rares personnes. Néanmoins, les neurosciences prouvent ce que chacune de ces personnes occupées a découvert. Ils font en fait moins d'énergie pour se concentrer attentivement que pour sauter d'une tâche à l'autre. Après une heure de contemplation ou de lecture approfondie, une personne se retrouve moins fatiguée et moins épuisée sur le plan neurochimique, donc plus à même de relever les défis mentaux. Cela nous donne de l'énergie de lire, qui nous éduque. Alors, frères et sœurs, lisons la parole de Dieu et lisons d'autres au sujet de d'autres choses. 2 Timothée 3, verset 15. Dans le contexte d'être en charge de son environnement et de son temps. 2 Timothée 3, verset 15. Nous allons commencer au verset 14. « Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Depuis son enfance, Timothée connaissait la parole. Ça ne s'est pas passé tout seul. Ça n'est pas arrivé tout seul. Les parents doivent enseigner à leurs enfants. Nous, en tant que parents, nous devons donner l'exemple, leur montrer que la parole de Dieu est d'une importance vitale. Ils doivent nous voir lire et étudier. Et nous devons aussi prendre du temps pour le faire avec eux. Contrôlez ce que vos parents regardent, ce que vos enfants regardent et voient. Et combien de temps ils pensent à le faire. Je crois qu'il est très important que les parents lisent avec leurs enfants, qu'ils discutent de ce qu'ils lisent avec eux, qu'ils posent des questions, qu'ils guident leur processus de pensée. Aidez vos enfants à apprendre et à penser de façon critique, à raisonner logiquement, à se poser des questions. S'ils l'apprennent dès un jeune âge, cela fera une grande différence pour eux. Et finalement, troisième point, pour ne pas tomber dans les pièges de ce monde, c'est de lire et d'étudier la Bible nous-mêmes à chaque jour. Mark Twain a dit, « L'homme qui ne lit pas les bons livres n'a aucun avantage sur l'homme qui ne peut pas les lire. » Alors, à quoi nous sert de savoir lire si nous ne lisons pas? Nous allons lire maintenant dans le livre de 2 Timothée 2, chapitre 15. 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui disperse droitement la parole de la vérité. C'est un but que nous devrions tous avoir. La parole de Dieu doit être bien interprétée, bien comprise. Comment appliquer sa parole dans nos vies? Tout cela prend du temps et des études personnelles. Si nous n'avons pas l'habitude de mettre en application ces choses, c'est le bon moment d'y réfléchir. Comment utilisons-nous notre temps? Passons-nous trop de temps sur des choses qui n'ont aucune valeur et qui nous détournent notre attention sur ce qui aura plus d'impact dans nos vies? Notre Père Céleste a révélé sa volonté, ses règles pour une vie réussie, son plan de salut, son chemin vers la vie éternelle pour nous, par écrit, dans la Bible. Nous devons chérir tout cela. Nous devons lire, y penser et ne pas nous laisser distraire. Nous distraire par des images. Ne vous laissez pas entraîner parce que Huxley a appelé le brave nouveau monde. Ce n'est pas brave et ce n'est pas nouveau et ce n'est pas bien. Nous devrions nous concentrer sur des choses plus importantes. Un monde meilleur arrive avec le retour de Jésus-Christ. Et nous avons beaucoup à faire pour préparer cette venue. Concentrons-nous donc là-dessus.